Jules Verne, Une ville flottante. Chapitre 35. 8 jours à passer en Amérique. Le Great Eastern devait partir le 16 avril, et c'était le 9, à 3 heures du soir, que j'avais mis le pied sur la terre de l'Union. 8 jours. Il y a des touristes enragés, des voyageurs express, auxquels ce temps eût probablement suffi à visiter l'Amérique tout entière. Je n'avais pas cette prétention. Pas même celle de visiter New York sérieusement et de faire, après cet examen extra rapide, un livre sur les mœurs et le caractère des Américains. Mais dans sa constitution, dans son aspect physique, New York est vite vu. Ce n'est guère plus varié qu'un échiquier. Des rues qui se coupent à angle droit, nommées avenues quand elles sont longitudinales et streets quand elles sont transversales, des numéros d'ordre sur ces diverses voies de communication. Disposition très pratique, mais très monotone. Les omnibus américains desservant toutes les avenues. Qui a vu un quartier de New York connaît toute la grande cité, sauf peut-être cet imbroglio de rues et de ruelles enchevêtrées dans sa pointe sud, où s'est massée la population commerçante. New York est une langue de terre, et toute son activité se retrouve sur le bout de cette langue. De chaque côté se développent l'Hudson et la rivière de l'Est. Deux véritables bras de mer sillonnés de navires, et dont les ferry boats relient la ville à droite avec Brooklyn, à gauche avec les rives du New Jersey. Une seule artère coupe de biais la symétrique agglomération des quartiers de New York, et y porte la vie. C'est le vieux Broadway, le Strand de Londres, le boulevard Montmartre à Paris. À peu près impraticable dans sa partie basse, où la foule afflue, et presque désert dans sa partie haute. Une rue où les bicoques et les palais de marbre se coudoient. Un véritable fleuve de fiacres, d'omnibus, de cabs, de haquets, de fardiers, avec des trottoirs pour rivage et au-dessus duquel il a fallu jeter des ponts pour livrer passage aux piétons. Broadway, c'est New York. Et c'est là que le docteur Pitferg et moi, nous nous promenâmes jusqu'au soir. Après avoir dîné au Fifth Avenue Hotel, où l'on nous servit solennellement des ragoûts lilliputiens sur des plats de poupées, j'allais finir la journée au théâtre Barnum. On y jouait un drame qui attirait la foule, New York's Streets. Au quatrième acte, il y avait un incendie et une vraie pompe à vapeur, manœuvrée par de vrais pompiers. De là, grande attraction. Le lendemain matin, je laissai le docteur courir à ses affaires. Nous devions nous retrouver à l'hôtel à 2 heures. J'allais, Liberty Street 51, à la poste, prendre les lettres qui m'attendaient, puis à Rowling Green 2, au bas de Broadway, chez le consul de France, Monsieur le baron Gaudrey Boileau, qui m'accueillit fort bien. Puis à la maison Hoffman, où j'avais à toucher une traite, et enfin au numéro 25 de la 36e rue, chez Madame R, la sœur de Fabian dont j'avais l'adresse. Il me tardait de savoir des nouvelles d'Hélène et de mes deux amis. Là, j'appris que sur le conseil des médecins, Madame R, Fabian et Corsican avaient quitté New York, emmenant la jeune femme, que l'air et la tranquillité de la campagne devaient influencer favorablement. Un mot de Corsican me prévenait de ce départ subit. Le brave capitaine était venu au Fifth Avenue Hotel sans m'y rencontrer. Où ses amis et lui allaient-ils en quittant New York? Un peu devant eux. Au premier beau site qui frapperait Hélène, il comptait s'arrêter, sans que le charme durerait. Lui, Corsican, me tiendrait au courant, et il espérait que je ne partirais pas sans les avoir embrassés tous une dernière fois. Oui, certes, et ne fût-ce que pour quelques heures, j'aurais été heureux de retrouver Hélène, Fabian et le capitaine Corsican. Mais c'est là le revers des voyages. Pressé comme je l'étais, eux partis, moi partant, chacun de son côté, il ne fallait pas compter se revoir. À 2 heures, j'étais de retour à l'hôtel. Je trouvais le docteur dans le bar-room, encombré comme une bourse ou comme une halle, véritable salle publique, où se mêlent les passants et les voyageurs, et dans laquelle tout venant trouve, gratis, de l'eau glacée, du biscuit et du chester. « Eh bien, docteur, dis-je, quand partons-nous? Ce soir à 6 heures. Nous prenons le Railroad de l'Hudson? Non, le Saint John. » Un steamer merveilleux, un autre monde, un Great Eastern de rivière. Un de ces admirables engins de locomotion qui sautent volontiers. J'aurais préféré vous montrer l'Hudson pendant le jour, mais le St. John ne marche que la nuit. Demain à 5 h du matin, nous serons à Albany. À 6 h, nous prendrons le New York Central Railroad et le soir, nous souperons à Niagara Falls. Je n'avais pas à discuter le programme du docteur. Je l'acceptais, les yeux fermés. L'ascenseur de l'hôtel, mu sur sa vis verticale, nous hissa jusqu'à nos chambres. Et nous redescendit quelques minutes après avec notre sac de touristes. Un fiacre à 20 francs la course nous conduisit en un quart d'heure au pier de l'Hudson, devant lequel le St. John se panachait déjà de gros tourbillons de fumée.